VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information du dimanche 12 février 2023. Il est 19h en temps universel. Au Burkina Faso, au moins 12 civils ont été tués et 6 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du pays, ont indiqué des habitants ce dimanche. Des dizaines d'hommes en moto ont attaqué le village de Sanakadougou, de la commune de Kombori dans la province de la Kossi, selon un résident, précisant qu'ils ont incendié plusieurs maisons et tiré sur les habitants, faisant 12 morts et 6 blessés. Un autre villageois a évoqué 13 morts, disant que des greniers ont aussi été incendiés et le bétail emporté. Il a dit que les populations ont commencé à quitter la zone depuis vendredi et craindre un bilan plus élevé après l'attaque de la localité de Yaran ce matin par des groupes armés. Au Cameroun, 5 employés du principal groupe agro-industriel public ont été tués vendredi dans une attaque visant leur camion dans une région anglophone, a annoncé la Cameroon Development Corporation. L'attaque est survenue à Mondoni, dans la région du sud-ouest, à une trentaine de kilomètres de Douala. 5 employés ont péri dans l'attaque et 44 ont été blessés, dont un grièvement, selon la CDC. Au Mozambique, 4 personnes sont mortes à Maputo et 14 000 ont été évacuées en raison d'inondations dues à des fortes pluies dans le sud du pays, a annoncé hier l'Institut national pour la gestion des catastrophes, précisant que 30 000 personnes ont été touchées par ces inondations. À Bouané, 2 ponts se sont écroulés et plusieurs routes ont été submergées. Le Somaliland accuse la Somalie d'avoir attaqué ses soldats ce matin dans un climat de tension croissante malgré un cessez-le-feu décrété depuis 2 jours. Les violences ont débuté lundi entre les forces armées de la région séparatiste et des milices loyales au gouvernement somalien dans la ville disputée de Lasanod. Mogadiscio n'a pas officiellement réagi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un nouveau convoi de l'ONU est arrivé ce dimanche en Syrie depuis la Turquie pour apporter de l'aide aux victimes du séisme qui a fait plus de 33 000 morts dans ces deux pays. 10 camions ont franchi la frontière à Bab al-Hawa. Le Qatar va envoyer aux pays sinistrés 10 000 cabines mobiles utilisées lors du mondial de football. Plus de 40 000 personnes sont mobilisées pour les opérations de secours en Turquie, dont 8 000 secouristes étrangers. La médiocre construction des bâtiments qui se sont effondrés suscite la colère dans le pays. Les médias turcs ont annoncé l'arrestation d'une dizaine d'entrepreneurs du secteur du bâtiment. Face à l'escalade du conflit israélo-palestinien, la Ligue arabe a convoqué ce dimanche au Caire un sommet pour Jérusalem des ministres arabes des Affaires étrangères. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, son homologue palestinien Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie ont ouvert les discussions. La situation actuelle réclame une intensification de nos efforts, a plaidé Abdallah II, auquel le président américain Joe Biden a récemment affirmé son soutien fort pour une solution à 2 États. Aux États-Unis, l'espace aérien au-dessus du lac Michigan dans le nord du pays a été fermé pour des raisons liées à la défense nationale, a annoncé ce dimanche le régulateur de l'aviation civile américaine. Cette nouvelle intervient au moment où 3 objets volants, dont l'un décrit par Washington comme un ballon espion chinois, ont été abattus en une semaine au-dessus des États-Unis et du Canada. Hier, l'espace aérien de l'État américain du Montana a été temporairement fermé. Un avion de combat dépêché pour enquêter sur une anomalie radar n'a pas identifié d'objet volant, selon l'armée. À Chypre, Nikos Christodoulides est le vainqueur de la présidentielle de ce dimanche. Soutenu par des partis du centre, il a obtenu 51,92% des voix devant son rival Andreas Mavroyanis, qui a obtenu 48,08% des voix selon le service électoral du gouvernement. En Allemagne, le parti social-démocrate du chancelier, qui tient la mairie de Berlin depuis plus de 20 ans, a subi une cuisante défaite ce dimanche lors d'élections locales dans la capitale, en étant nettement devancé par les conservateurs, selon les estimations des chaînes de télévision. La CDU est arrivée en tête de l'élection au Parlement local avec 28% des suffrages contre 18% pour le SPD, son pire résultat depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon les premiers chiffres des chaînes de télévision.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue à tous dans le dialogue des religions et sur VOA Afrique. Eric Manila Kidza en votre compagnie. La mise en onde est assurée par Lionel Lunanila Gahima. Ce soir, nous parlons du mariage fondé sur la foi. Pour le meilleur et pour le pire, c'est une promesse que les époux échangent au moment de leur union solennelle et reflète ainsi l'amour de Dieu pour nous tous et assure la présence et le soutien mutuel. Malgré cet engagement réciproque, nombreux sont les couples qui se séparent et divorcent. La foi peut-elle sauver un mariage en difficulté? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Ce soir, nous recevons le couple Nathalie Nyamoya et Olivia Kizimana, en ligne depuis Montréal au Canada. Bonsoir, les amis.
Bonsoir, Eric.
Bonsoir, Eric.
Selon le pape François, le sacrement du mariage est un grand acte de foi et d'amour. Nathalie, pourquoi se quitte-t-on dans un mariage fondé initialement sur cette alliance?
Écoute, je pense qu'au départ, on a des idées assez préconçues sur le mariage en général. Mais bon, je dirais que sans trop entrer dans les détails, on pourrait dire que ce qui détruit le mariage, c'est plus les attentes qui sont basées sur les influences, soit culturelles, soit les influences qu'on a vues au travers des films, soit une mauvaise ou un manque de communication entre les couples, ou les tempéraments qui sont extrêmement différents et qu'on n'arrive pas à comprendre au départ.
Olivier, un mariage peut paraître comme une prison, n'est-ce pas? Ce qui fait que les parties décident de se séparer pour être en paix, entre guillemets. Quand et comment les ennuis se présentent?
Souvent, on projette donc les mauvais moments qu'on a déjà vécu ou les bons moments qu'on a déjà vécu. Mais on ne sait pas ce qu'on va affronter. En réalité, quand je dis que je vais aimer Nathalie, dans les bons ou les mauvais moments, je fais référence aux bons moments et mauvais moments que j'ai déjà rencontrer. Mais concrètement, je ne suis pas apte à dire que je vais t'aimer dans les bons et les mauvais moments. Au fond, il serait mieux de dire « je vais t'aimer avec l'aide de Dieu ». Parce que les gens, ils font confiance à leur capacité à aimer l'autre. C'est pour cela que quand viennent les tentations et autres pressions de la vie, des fois, on voit que le mariage part à mille morceaux et les gens se posent des questions. Alors, comme vous venez de le dire, on se sent comme dans une prison parce qu'il y a un problème de communication ou une mauvaise communication ou un manque total de communication. Donc, on se sent mal et on a envie de quitter, de partir. Et malheureusement, la liberté ne se trouve même pas ailleurs, donc ou en dehors de son mariage. Parce que la liberté, ce n'est pas un concept seulement. La liberté, c'est Jésus seul qui peut donc nous la donner.
Très souvent, le choix des époux repose sur l'attirance et la compatibilité mutuelle. Donc pour vous, ce n'est pas suffisant pour un amour sincère et profond.
C'est le premier point qui t'attire, parce que vous savez que physiquement, l'homme et la femme changent avec l'âge. C'est pour cela qu'au-delà de cette beauté physique, il y a donc ses valeurs, il y a sa foi, parce qu'on parle du mariage et de la foi, il y a sa foi qui doit t'attirer. C'est ça le roc sur lequel vous devez bâtir votre mariage.
Nathalie, vous parliez de tempéraments, lesquels, par exemple?
En psychologie, on observe quatre grands types de tempéraments. Les tempéraments classés extravertis, c'est-à-dire les sanguins et les colériques. Et les tempéraments dits introvertis, c'est-à-dire les mélancoliques et les phlegmatiques. Alors, les sanguins, ce sont des gens qui sont portés vers les autres. Olivier, par exemple, c'est quelqu'un qui est très sanguin. Au départ, quand on se connaissait, il prenait le temps de saluer tout le monde. C'est une personne qui peut prendre des heures, une heure pratiquement, à saluer les gens dans une fête, après l'église. Alors que moi, je suis dans un tempérament plutôt mélancolique, je suis plus dans les idées, et ça me stressait, je me disais, c'est pas, cette personne ne m'aime pas, donc pourquoi est-ce qu'elle prend du temps à saluer des gens pendant une heure? Et dans ma conception, C'est vrai, j'aime les gens, mais c'est plutôt un concept idéal. Je ne manifeste pas. Donc, il y a ce tempérament sanguin, colérique. Il est plus porté vers l'action. C'est quelqu'un qui est vraiment fougueux, mais qui est centré plus sur les choses à accomplir. Il va faire beaucoup de dégâts en général, mais s'il est bien orienté, il arrive très loin. Ce sont des gens qui peuvent être des CEO, des entrepreneurs nés, en fait. Et ainsi que les phlegmatiques, eux, ce sont les gens qui se donnent, qui n'aiment pas être une source de problèmes. Ce sont des gens qui bien aller dans le sens des autres, ne pas poser de problèmes, des gens extrêmement paisibles. C'est rare qu'on se marie avec les mêmes tempéraments. Chaque tempérament a des défauts. Mais quand on arrive à savoir comment l'autre fonctionne, ça nous aide à quand même à apprécier la vie, à d'abord apprécier ses bons côtés et à savoir que si Olivier ne s'exprime pas de cette manière qui est mon langage à moi de mélancolique, c'est pas contre moi. Ça m'a pris du temps, ça lui a aussi pris du temps, parce qu'au départ, vraiment, ça n'allait pas du tout. Mais quand on commence à prendre ce genre de choses, on est très rassuré.
Olivier ?
Durant nos premières années de mariage, des fois, je me disais, mais elle ne s'exprime jamais. Elle n'exprime pas ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Mm-hmm. Alors que moi, j'étais là, j'exprimais donc la profondeur de mon cœur. Je l'étalais au grand jour. Mm-hmm. Je pouvais m'exprimer facilement. Mais j'ai appris de plus en plus que par rapport à son tempérament, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. Mm-hmm. Aussi, c'est quelqu'un qui est porté aux idées. Elle réfléchit énormément. Même actuellement, je lui propose, est-ce que Nathalie, on peut sortir dehors, on peut aller quelque part.
Elle dit, en improvisant.
J'improvise. Mm-hmm. Alors je dis, ah, on y va, on peut sortir. Non, elle dit, il fallait me le dire hier. Et je dis, cette femme, elle est comment? Donc, je ne comprenais pas trop comment elle réagissait. Ouais. Parce qu'avant de connaître son tempérament, mm-hmm. moi, je l'interprétais comme le fait qu'elle ne m'aimait pas. Mm-hmm. Je disais, cette femme n'est pas tellement engagée avec moi. Mm-hmm. C'est pour cela que peut-être elle a honte de sortir avec moi. Mm-hmm. Mais de plus en plus, en connaissant son tempérament, je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'elle réfléchit. Mm-hmm. Elle ne réagit pas comme moi. Mm-hmm. Donc, selon les situations, et juge pas les situations comme je le fais. Mm-hmm. Moi, j'y vais directement. Par exemple, s'il y a une personne qui a un problème, moi, j'y vais. Je suis un pompier. Il faut que j'y aille directement. Mais Nathalie, elle a besoin de s'asseoir, d'abord d'analyser la situation. Et moi, je dis, non, il y a l'urgence. Il faut qu'on y aille vite. Mm-hmm. Alors, de plus en plus, je la connais et je commence donc à apprivoiser son tempérament. Avant, je dirais, c'était pas facile.
Il est gentil quand même, parce que dans certaines circonstances, un homme comme lui, qui doit, entre guillemets, représenter l'autorité dans la maison, il pourrait prendre mes réactions comme une forme de résistance ou même d'un manque de rébellion carrément.
Et comment vous parvenez à tempérer vos tempéraments?
Je dirais, ça, c'est là où donc la place de la foi est hyper importante, mm-hmm. parce que Dieu est patient avec nous. Et vous savez, quand on définit l'amour, donc l'amour qui vient de Dieu, on parle de la patience. Mm-hmm. On dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, verset 4, on dit « l'amour est patient ». Donc la preuve de l'amour, c'est qu'on est patient à l'égard de son partenaire ou de sa partenaire. Mm-hmm. C'est pour cela que j'ai appris à être patient. Des fois, j'attendais, je ruminais ma déception dans mon cœur, mais après, elle venait, elle essayait de m'expliquer. Mm-hmm. J'essayais de lui poser aussi d'autres questions pour savoir réellement donc, son intention, sa motivation. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir de telle manière? Elle m'expliquait ça. Donc je dirais, c'est la place de la foi, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Tu sens et tu te rappelles que Dieu est patient à ton égard, mmh. envers toi. Alors tu te dis, il faut que je sois patient avec elle.
Merci.
Nathalie ?
Pour moi, je pense que la foi m'a aidé à connaître mon identité dans le couple. Parce que l'une des erreurs que nous commettons quand on se marie, c'est de penser que l'autre va nous compléter et que le mariage va nous donner une certaine identité, un certain statut. Et la foi m'a permis de savoir que je suis d'abord l'enfant de Dieu. Je suis une personne à part entière et que mon identité ne dépend pas des autres. Entre autres de mon mari, mais de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'Olivier ne comprend pas certaines choses ou que, comme un sanguin, il arrive des fois à dire les choses, soit qu'il regrette ou qu'il dit selon sa vision des choses, moi, quand tu donnes une parole, avant de parler, je médite beaucoup sur ce que je vais dire. Et je me dis que tout le monde pense comme moi. Ce qui fait qu'une parole qui peut être dite par une personne, soit colérique, en tout cas excentrique ou extravertie, je peux la percevoir d'une façon très douloureuse, elle peut me blesser. Et avec la parole de Dieu, avec la foi, j'ai compris que ce qu'il disait, ce n'était pas contre moi. C'était sa façon de s'exprimer. Et ce qu'il disait, c'était aussi un état d'âme, parce qu'il peut être dans un état d'âme qui n'est pas très bon, il peut être malheureux, triste. C'était juste un état d'âme. Ce n'était pas son identité qui me blessait personnellement. Ça m'a beaucoup aidé à me focaliser plus sur ce que Dieu pensait de moi que sur ce que je pense qui ne devrait pas être prise à la lettre.
Vous mettez donc Dieu au centre de votre couple. Concrètement, comment vous parvenez à le faire dans la pratique?
On vit simplement. On n'a pas le temps d'être religieux ou d'avoir des habitudes particulières. C'est une vie au quotidien, une vie normale. Et les petits défis que l'on a chaque jour représentent peut-être des petites victoires par rapport à ce que nous avons déjà accompli. Si je n'arrive pas à comprendre, je m'exprime mieux maintenant parce que je sais que je peux facilement sortir mes sentiments, exprimer mes pensées et que mes pensées ne seront pas directement jugées de façon à ce que je sois blessée. Je pense que ce sont des petits combats au quotidien. Oui, au quotidien, petit à petit, qui fait que la marche dans le couple se fusionne en fait.
Je pense aussi qu'il y a la place de l'échange qu'on a parmi nous parce que un des problèmes que rencontrent les couples, c'est plus un manque de communication ou une mauvaise communication. C'est un psychologue qui a écrit un livre, Les 5 langages d'amour. Et là, il parle que les gens ont différentes sortes d'amour, donc de langage, une façon de s'exprimer. Et par exemple, bon, langage d'amour, c'est plus, je dirais, les cadeaux. Et Nathalie, c'est les moments de qualité, par exemple. Alors, j'ai compris que quand je lui accorde du temps, quand je suis avec elle et que je l'écoute, parce que la femme a souvent besoin de s'exprimer et que je lui prête l'oreille attentive, là, elle est vraiment touchée.
Vous écoutez le dialogue des religions, Lionel Mounanira Gahima sur la mise en onde, la présentation Eric Manirakiza. Dans un instant, la suite de notre discussion. Nous parlons du mariage fondé sur la foi. Selon 1 Jean 4,18, l'amour parfait chasse la crainte, n'est-ce pas? Olivier, est-ce qu'il existe des principes bibliques pour un mariage qui dure et qui augmente en intensité?
L'homme doit aimer la femme comme Christ aime l'Église, et que la femme doit être soumise à l'homme. Je dirais que c'est les principes de base. Mais vous savez, quand on parle de principes...
Ça, c'est dans Éphésiens 5, 25, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, exactement. Et vous savez, souvent, quand on parle des principes, ça devient souvent comme des lois. Si ça devient comme des lois, ça devient de plus en plus pesant. Et c'est là où on commence à chercher cette liberté dont vous avez parlé tantôt. Mais quand je parle donc des principes, et quand il y a l'amour, ils ne sont plus des principes. Ça devient comme des garde-fous qui sont là pour vous accompagner, parce que vous vous aimez déjà. Je ne sais pas ce que Nathalie en pense.
Oui, je me dis aussi que ça dépend aussi des saisons dans lesquelles on se trouve. Il y a des fois où on se sent très faible et l'autre est là pour vous soutenir et ne considère pas vraiment ce qu'il est en train de vivre, mais aide l'autre. Il y a des fois où on est tous forts. Là, on jouit de la vie quotidienne du couple en général et surtout de savoir, d'être au courant de ce que l'autre est et qui n'est pas comme toi, même si on est appelé à devenir une seule chair. Et savoir respecter la personnalité de l'autre, je pense que c'est très important.
Comment justement cimenter une relation sur la parole de Dieu?
La parole de Dieu, je dirais, c'est une base. C'est elle qui nous guide. Comme un des psaumes dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est elle qui nous sert comme modèle de vie. Ce n'est pas seulement des principes qu'elle nous communique, mais c'est une vie. Et Jésus a dit, les paroles que je vous dis, ça communique la vie. Et chaque fois quand on parle donc de la parole de Dieu et qu'on accorde une place à la parole de Dieu dans notre couple. Donc, cette parole vient et commence à communiquer la vie. Et souvent, je parlais tantôt de l'échange, on aime échanger sur la Bible. Et souvent, il y a des principes ou des versets qui en ressortent. Et quand on échange là-dessus, ça nous permet d'entrer en profondeur et souvent, ou des fois, de traiter des problèmes. Alors, quand on parle et qu'on utilise la parole de Dieu, et nous éclaire, et ça devient comme un miroir dans lequel on voit notre image, on voit notre faiblesse, mais aussi on voit notre force. Et la parole de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous motiver aussi et nous encourager à avancer. Mais la parole de Dieu aussi nous présente une personne. C'est lui qui est à la base de la création du mariage. Et vous savez, Nathalie l'a dit souvent, on ne se marie pas pour nous-mêmes. On se marie pour Dieu. On est dans une mission. C'est un service. Et il y a le grand patron, le grand boss qui est Jésus. Et à travers la parole, on le découvre. On découvre que c'est lui qui est là pour nous aider, pour nous accompagner, nous prendre par la main et nous montrer le bon chemin.
Nathalie, est-ce que du point de vue spirituel, est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous partagez ce que vous lisez dans la parole de Dieu?
Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'on va choquer beaucoup de chrétiens là. On va vraiment les choquer. Quand on s'est rencontrés, on était tous chrétiens, comme on l'avait dit la dernière fois. Et je m'étais mis dans la tête que, oh, quand même, tous les couples, il paraîtrait qu'il faudrait qu'ils prient ensemble. Tous les soirs, on a essayé, ça n'a pas marché. Moi, je suis une personne de la nuit, j'aime même mon job, je le faisais la nuit, je suis médecin, je faisais mes gardes de nuit, j'aimais vraiment la vie de nuit, alors qu'Olivier, c'est quelqu'un de jour. Donc déjà, on était très différents. On a essayé par la force, comme Olivier l'avait dit, lorsque vous mettez des choses comme des principes, en tout cas, ça devient pesant à la longue. On a commencé à être libre, on se dit, écoute, de toute façon, tu es un individu à part entière devant Dieu, je suis une fille de Dieu à part entière, tu auras ton moment à toi avec Dieu, j'aurai mon moment à moi avec Dieu. Et c'est vrai qu'il arrivait des fois où, en échangeant sur des sujets, ou en échangeant sur certaines choses, en méditant la parole de Dieu, on se dit, écoute, j'ai entendu un truc comme ça, j'ai médité sur ça. Il y a des rêves, des fois, où on prie ensemble, mais on n'a jamais mis ça comme une obligation de résultat, comme si notre vie maritale dépendait du fait qu'on prie ensemble. Non. Moi, je chéris mon moment avec Dieu. Et quand c'est un moment intime, c'est moi et mon Dieu, pas avec Olivier. Il arrive des fois que je prie avec Olivier.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Je me dis que c'est la même chose comme la vie d'église. On ne prie pas tout le temps dans l'église, avec les gens tout le temps. Il y a des moments où c'est excellent d'être avec les frères en Christ et les sœurs en Christ, mais aussi des moments extrêmement précieux d'être seul avec Dieu. Donc nous, on n'a pas vraiment cette routine de, écoute, à 20h, on prie ensemble. Non, en tout cas pour nous, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché.
Oui, allez-y, Olivier.
Oui, j'allais dire, mais concrètement, on prie ensemble. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent, quand on est rempli de Dieu et que l'autre est rempli de Dieu, vous retrouvez même vos échanges, ils sont remplis de Dieu. Alors souvent, nous nous retrouvons en train de prier. À travers les échanges, on commence par les échanges, mais petit à petit, on se retrouve, on est en train de prier pour une requête particulière ou pour un frère ou une sœur qu'on connaît ou pour notre situation familiale. Donc, on le fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est décidé à l'avance. Aussi, ça dépend aussi de la personnalité, parce que moi, souvent, j'aime plaire les gens, j'aime plaire l'autre. Même quand j'élève ma voix pour prier, j'essaie de tourner ma prière dans le sens où ça va plaire à Nathalie. Et là, je me rends compte que je ne suis pas en train de prier Dieu, mais je prie, on dirait que je prie l'autre pour le satisfaire ou la satisfaire. Donc, il y a ces moments qui sont, je dirais, initiés par Dieu, initiés par cette abondance, initiés par cette coupe qui déborde, et on vit des moments excellents. Des fois, on passe 3 heures en train de pleurer sous la présence de Dieu, en train d'échanger, donc en train de prier l'un pour l'autre, et alors qu'on n'avait pas planifié. Donc, ça se passe comme ça. Alors, j'aimerais aussi encourager les gens qui le font. Pour vous, si ça marche, continuez comme ça.
Exact.
Parce que c'est vraiment excellent que les couples prient ensemble. Mm-hmm. Parce que plus vous passez du temps ensemble à prier les uns pour les autres, plus vous n'aurez pas, je dirais, cette chance d'avoir des chicanes, d'avoir des problèmes entre vous. Parce que dans la prière, vous vous sanctifiez. Vous prenez le temps de vous demander pardon et ça vous aide.
Et comment vous faites pour le partage de rôles et responsabilités au sein de votre couple, Nathalie?
Elle se fait naturellement. Je me dis qu'elle se fait naturellement. Donc, il y a des choses que je fais naturellement. J'aime bien les choses rangées par mon caractère, par mon tempérament. Donc, en général, j'organise beaucoup les choses. Olivier, à la maison, c'est plus un soutien. Il va venir m'aider parce que quand je m'attache à faire une chose, j'ai envie de la perfectionner. Et là, quand je sens qu'il faut de l'aide, je demande à Olivier. Mais je me dis que oui, c'est ça. Moi, je fais les choses comme je le sens, sachant qu'Olivier aussi est le responsable de la maison.
Je dirais aussi, je suis plus le ministre des Relations externes. Donc, tout ce qui touche, je dirais, à l'administration, parce que dans ces pays là où on vit, il y a certaines requêtes administratives. Souvent, c'est moi qui suis là pour répondre. Mm-hmm. S'il y a aussi des besoins pour aller aider les gens à l'extérieur, vous savez, on vit aussi dans une communauté burundaise. Quand il y a des problèmes, quand on doit soutenir un tel ou un tel. Donc, je suis toujours là. Je dirais, plus je suis porté vers l'extérieur et elle est portée vers l'intérieur. Mais on est là pour s'entraider. Et souvent, disons, par exemple, aussi pour les études des enfants, c'est elle qui s'implique davantage. C'est facile pour elle. Mais pour moi, quand vient le moment de donner des cours aux enfants, oh my God, je ne me reconnais même pas.
Donc, c'est comme cela que vous devenez une seule chair. Vous faites la vaisselle et vous l'épargnez de son temps qu'elle consacre aux enfants.
Oui. Mais moi, j'ai un bon rapport avec l'eau. Hein. Donc, je vais peut-être décevoir pas mal de personnes. J'aime beaucoup l'eau parce que, en général, je fais la vaisselle quand les enfants vont dormir. Et ça, là, je prends le temps de louer Dieu en faisant ma vaisselle. C'est le moment où je prie parce que c'est très difficile d'avoir des moments de prière en Occident. Moi, la vaisselle, j'aime bien la faire moi-même parce que c'est vraiment un moment de louange, d'adoration en faisant la vaisselle. Et j'aime beaucoup l'eau. Peut-être que pour les autres... Ce serait difficile, mais pour moi, ça me plaît beaucoup.
Je l'aide aussi à faire la vaisselle, mais je suis porté aussi de plus en plus à faire la cuisine.
Oui.
Parce que c'est ma passion. J'aime beaucoup faire la cuisine. Mm-hmm. Et chaque fois que je regarde YouTube et que je vois un plat qui me plaît, j'ai toujours tendance à essayer donc de le reproduire à la maison. J'essaie de le faire. Je dirais, il n'y a pas une personne qui est attitrée par rapport au service quelconque, mais on essaie de s'entraider. Et aussi, j'aide Nathalie parce que quand je vois qu'elle souffre dans une tâche, je suis porté à l'aider.
Et je suis très difficile d'exprimer mes sentiments des fois.
Revenons sur les 5 langages de l'amour, il nous reste très peu de temps, Olivier.
Quand vous ne connaissez pas le langage d'amour de l'autre, de votre partenaire, souvent c'est difficile. Je donnais l'exemple tantôt. Pour moi, mon langage d'amour, c'est plus les cadeaux. Et je le faisais souvent avec Nathalie. Je me rappelle quand on était en Afrique, quand on était au Burundi. Et un jour, je me rappelle, et là, elle vient avec une boîte, là où étaient entassés tous mes cadeaux. Et là, elle me dit, mais tu sais, Olivier, ce qui me plaît, c'est parce que tu me ramènes. Et là, elle m'a montré tous ses cadeaux. Elle m'a dit, si tu m'accordes 10 minutes, mm-hmm. que tu prêtes ton oreille, mm-hmm. ça me suffit, ça me comble. Yeah. Et j'ai dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que j'ai dépensé tant d'argent pour acheter ces cadeaux. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, waouh. Mm-hmm. Et elle, je la voyais souvent frustrée parce que je suis un fan du Barcelone. J'aime le soccer, le football. Alors, quand j'étais avec elle, c'est comme si elle était tout le temps, je dirais souvent, inspirée à me parler de quelque chose d'important quand il y avait le match. Et je disais, mais cette femme, pourquoi elle n'a pas la révélation du moment aux portes du bon moment? Pourquoi ne veut-elle pas attendre? Mais j'ai appris de plus en plus à connaître son langage d'amour. Et quand je sens
l'attention
qu'elle veut...
L'attention et l'attachement, n'est-ce pas? L'attention et l'attachement.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Moi, j'aime bien les moments de qualité et ce qu'on appelle aussi les services rendus. Donc, moi, quand je vois une maison qui est propre et quand Olivier m'a aidé, je suis super contente. Là, je suis au max de la bénédiction. Alors qu'Olivier, il peut s'asseoir, ça ne peut pas lui poser de problème. Donc, quand on apprend ces petites choses, on apprend à parler le langage de l'autre. Maintenant, j'apprends à faire des cadeaux à Olivier, ce que je ne faisais pas avant. Et oui, voilà, on essaie de s'équilibrer comme ça.
Qu'est-ce que vous vous dites le matin lorsque vous vous réveillez et le soir avant de vous coucher?
Est-ce que les enfants sont prêts pour aller à l'école?
Je pense que c'est ça. t'as fait le lunchbox.
C'est ça. On ne se réveille pas comme Roméo et Juliette avec des problèmes, non. Mm-hmm. On est là et on se dit les choses qui doivent être faites, c'est ça.
Vous ne vous dites jamais « je t'aime »
Si, on le fait, mais c'est pas vraiment articulé, c'est pas organisé, quoi.
Moi, je le dis souvent plus qu'elle.
Oui, je le reconnais.
Moi, je m'exprime facilement, je le dis facilement.
Je vais terminer par ce témoignage anonyme. Déjà 25 ans que je suis marié avec la même femme. Honnêtement, ça m'a paru très court. Nous avons eu des épreuves, des moments intenses, de grandes joies et de profondes déceptions. La vie s'est chargée de quelques rides et cheveux blancs supplémentaires, mais l'amour que nous avons l'un pour l'autre n'a cessé de croître depuis ce jour où nous avons dit oui. Je suis personnellement un enfant du divorce. Je l'ai connu à 16 ans et ma confiance en l'institution était alors plutôt mitigée. J'ai plongé dans l'aventure maritale avec des convictions ne provenant pas de mon expérience personnelle, mais de la parole de Dieu. Et jamais je n'ai été déçu lorsque mes amis chrétiens ou non me demandent comment nous avons pu durer et vivre amoureux encore et encore. La réponse est tout simple, c'est grâce à Dieu. Je pense que c'est ce que vous avez aussi mentionné au cours de cette discussion, n'est-ce pas, Nathalie?
Absolument, c'est une merveilleuse conclusion.
C'est l'écho d'un mariage qui est bâti sur la foi de Dieu.
Nous arrivons donc au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci à Nathalie Nyamoya et à Olivier Akidimana pour votre temps et votre contribution.
Merci.
Merci à vous.
Merci à Lionel Lunanira Gahima pour la mise en onde. Eric Manirakiza vous souhaite une excellente soirée.